France Musique. Et j'ai le plaisir d'accueillir le pianiste David Sodubré et le violoncelliste Gregorio Robino. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bienvenue. Vous venez nous parler de votre disque consacré à Beethoven, sorti en mai dernier chez Artis Records, et en lien avec cette actualité, bien sûr, de votre concert que vous donnerez dans le cadre du Festival de musique de chambre d'Entrecasteaux dans le Var, le 10 août prochain. Alors, je vous présente un peu David Sodubré. Vous êtes pianiste formé au CNSM de Paris dans les classes de Brigitte Angerer et Pierre-Laurent Aymard. Vous êtes actuellement professeur de piano au CRR de Paris, rue de Madrid.
Absolument. Oui.
Intervenant au CNSM de Paris, et puis vous enseignez également dans différentes académies. Vous revenez d'ailleurs des Arcs.
On revient tous les deux de l'Académie des Arcs, qui est une grande académie d'enseignement, et également un grand festival où on partage énormément de bons moments de musique, on fait beaucoup de rencontres, et donc on est vraiment content de revenir de ce festival. On a pu faire vraiment des beaux concerts dans des lieux magnifiques.
Quant à vous, Gregorio Robino, vous êtes franco-argentin, vous êtes actuellement violoncelle solo de l'Orchestre National de Lille, et on pourra vous entendre prochainement dans le double concerto de Brahms en février 2020.
Exactement.
Avec l'Orchestre National de Lille.
C'est ça, on a joué avec Ayako Tanaka, la super soliste de l'Orchestre National de Lille il y a quelques temps déjà. Et on va refaire ce même programme avec l'effectif complet, donc à Lille même, au Nouveau Siècle, la salle de Lille, à Amiens, et voilà. Donc ça va être un réel plaisir de rejouer ce programme.
Rendez-vous en février 2020. Alors, avec ces carrières multiples, vous avez eu le temps de former un trio en 2013 ou 2014?
Oui, c'est ça.
Piano, violon, violoncelle, le trio Masqueré avec le violoniste Guillaume Molko. Alors, qu'est-ce qui, l'un et l'autre, vous a donné envie de travailler ensemble, à la fois en trio comme en duo, donc pour ce disque Beethoven?
Je vais donner la parole à David peut-être.
Ah d'accord, voilà.
Alors, l'origine du trio, en fait, au départ, c'était pas avec Guillaume Molko, c'était avec Olivia Hugues, qui était violoniste au quatuor Ardeo avant. Et qu'est-ce qui donne envie de jouer ensemble? Avant tout, c'est comme des rencontres humaines. On se rencontre et on commence à vraiment accrocher, disons qu'on a beaucoup de points communs. Et ensuite, le désir de faire de la musique ensemble arrive tout naturellement. Et donc en 2013, on s'est retrouvés tous les trois. On est à peu près de la même génération au Conservatoire de Paris, et on a lancé le projet du trio.
Et avec ce trio, d'ailleurs, vous revenez tout récemment d'une tournée en Chine.
Oui, exactement. On a joué, comme David l'a dit, on a commencé avec Olivia, et puis les destins un peu croisés ont fait qu'Olivia...
qui est aujourd'hui au Smoking Joséphine, entre autres.
Exactement. Mais et qui est aussi, d'ailleurs, au Festival de musique de chambre d'Entrecasteaux, qui s'occupe de la direction artistique, dans le festival dans lequel on va jouer prochainement. Et du coup, par le fait de la vie, un peu, on a dû changer de violoniste. On joue avec Guillaume maintenant, et du coup, on revient d'une tournée, puisque Guillaume est le violon solo de l'Orchestre Symphonique de Shanghai, le SSO, et il a l'opportunité, l'occasion de nous inviter régulièrement en Chine. Et donc là, on a joué dans pas mal de villes, dans 5-6 villes, et on a fini par un concert pas mal du tout, je trouve.
La Symphonie de Shanghai, où on a joué l'intégrale des trios de Brahms.
Exact. Et
voilà. Alors, on va revenir à Beethoven, à qui vous consacrez donc votre disque, un disque sorti chez Artis Records. Beethoven, donc, en anticipant de quelques mois le 250e anniversaire de sa naissance, c'était une évidence pour vous deux d'enregistrer une partie de ses œuvres pour violoncelle et piano?
Disons, quand on commence à aborder le répertoire du violoncelle-piano, du duo violoncelle-piano, c'est absolument une évidence. Alors, c'est vrai que l'anniversaire de la naissance de Beethoven, justifie encore plus. Après, on va pas être les seuls à le faire, c'est sûr, mais c'est un répertoire qu'on veut absolument aborder. Et on était ravis vraiment d'enregistrer ces œuvres-là.
Ouais, carrément, je trouve que c'était une idée un peu fraîche et osée à la fois, parce que pour un premier enregistrement, c'est... En général, les violoncellistes et les pianistes, quand ils enregistrent en sonate, ils abordent pas nécessairement le répertoire comme Beethoven, qui est quand même un répertoire majeur, plutôt dit de maturité. Plutôt, on commencera par des sonates françaises, du Mendelssohn. Mais là, on s'est dit que c'était vraiment l'occasion, et que c'était ce qu'on voulait faire. Puis, David est quand même un grand spécialiste de Beethoven.
Non, je n'oserais pas dire ça, mais je connais un peu.
Thank you. 18h38 sur France Musique, la fin du premier mouvement Allegro Manon Tanto de la troisième sonate, opus 69 de Beethoven, par mes invités ce matin, le pianiste David Sodubret et le violoncelliste Gregorio Robino. Un extrait de votre disque de sonates et variations, donc de Beethoven, sorti le 27 mai dernier chez Artis Records. Alors la troisième sonate, c'est la plus populaire, sans doute. Elle a une place particulière, 1807-1808, une période très prolifique pour Beethoven. David Sodubret.
Absolument, et puis ça correspond vraiment à la période dite héroïque de Beethoven. C'est-à-dire qu'il c'est vraiment un compositeur, bon, les gens savent peut-être pas, certains le savent, mais qui a vraiment trois périodes, enfin qu'on définit souvent en trois périodes. Donc une période peut-être plus post-classique, à laquelle correspondraient plutôt les deux premières sonates.
Mmh. On va en écouter un extrait.
Et la période héroïque, où là, on arrive sur des œuvres, par exemple, pour les sonates pour piano, plutôt les œuvres telles que la sonate Waldstein, la sonate Appassionata, pour les quatuors à cordes, peut-être le quatuor des harpes, ou pour le trio avec piano, le trio des esprits.
Il y a deux symphonies aussi qui
Il y a deux symphonies, absolument. La cinquième, la pastorale. C'est peut-être la période qui touche peut-être le plus grand nombre et qui pourquoi parce que les thèmes sont extrêmement romantiques déjà parce que voilà il y a tous les contrastes tout le côté très contrasté de la musique apparaît de façon très évidente et donc la troisième sonate est la seule sonate pour violoncelle et piano qui appartient à cette période et peut-être que c'est pour ça que c'est la plus populaire.
Un compositeur, Beethoven, qui a composé 5 sonates pour violoncelle et piano sur une vingtaine d'années, 1796 à 1815. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on retrouve un peu toute la palette sonore, les idées, l'évolution de l'écriture de Beethoven sur toutes ces 5 sonates.
Absolument, ça rejoint ce que je disais précédemment, c'est-à-dire qu'après la 3e, la 4e et la 5e sonate sont beaucoup plus tardives. Hein, on est sur l'opus, c'est 105, c'est ça ?
102 numéro 1 et 2, ouais.
Pardon. Et donc là, on est sur des formes beaucoup plus... mince, comment je cherche le thème, enfin beaucoup plus courte, mais par contre extrêmement condensée, avec oui. Notamment aussi au niveau des registres qui sont utilisés sur des choses beaucoup plus modernes, je dirais. L'utilisation aussi des fugues un peu obsessionnelles chez Beethoven, la recherche de la lumière dans le son.
Et vous n'avez pas choisi d'enregistrer les 4e et 5e sonates. Il fallait faire un choix de toute façon. Mais...
On avait bien envie d'enregistrer toutes les sonates, mais...
C'est d'ailleurs le projet.
C'est d'ailleurs ouais. Le projet, mais on a commencé peut-être par les deux plus populaires, la 2e et la 3e.
Alors au-delà des 5 sonates pour votre formation, Beethoven a composé également 3 cycles pour violoncelle et piano d'après des thèmes qu'il emprunte à Mozart et Handel, des œuvres qui sont plus rarement jouées et que l'on trouve donc dans votre disque consacré donc aux œuvres pour piano et violoncelle de Beethoven. Vous avez enregistré le thème Andante et les 7 variations en mi bémol majeur d'après un duo extrait de la flûte enchantée de Mozart. Alors comment Beethoven s'est approprié ce thème, Gregorio Robino ?
Alors comment il se l'est approprié ? Il a pris un thème
un duo.
De flûte enchantée, exactement, un duo d'amour.
By Maynard Welschli de Fulon.
Exactement. Pour les hommes qui ressentent l'amour, enfin, je dirais pas bien la traduction.
C'est à peu près ça.
Et du coup, à travers un thème assez simple, en réalité, à travers toutes ces variations, il y a vraiment une approche du violoncelle extrêmement lyrique et extrêmement... simple, oui, je trouve que c'est ça, c'est extrêmement simple.
Alors le violoncelle prend les deux voix du duo, ou comment ça se passe en fait ?
Au départ, le thème est exposé au piano.
Oui.
Et ensuite, suivant un travail de variation, que ce soit rythmique, au niveau des tempi ou au niveau du lyrisme, oui, changement du
De toute thème. Façon, le côté vocal, vraiment à proprement parler de l'air, il est vraiment énoncé dans le thème. Et ensuite, ce qui est assez extraordinaire, c'est surtout l'inventivité instrumentale et toute l'imagination de Beethoven, qui est un grand improvisateur, et on le sent vraiment... très fort quand on écoute ces variations.
Ouais. Nous allons écouter les deux dernières variations en mi bémol majeur, donc sur ce thème de la flûte enchantée de Mozart.
Thank you.
Et deux dernières des sept variations d'après le duo by Menern, Welsche, Liebe, Fühlen, de la flûte enchantée de Mozart par Beethoven. Un vrai contraste entre cette sixième et cette septième variation, David Sodubrel, Gregorio Robino, l'une très tendre et puis l'autre évidemment plus agitée, plus virtuose. Il y a une diversité incroyable dans toutes ces variations.
On voit là vraiment, oui, le talent de compositeur de Beethoven et toute l'inventivité. Après, dans les cycles de variation, c'est souvent quelque chose qui arrive, c'est-à-dire qu'il y a une forme plutôt d'accélération dans les premières variations. En général, une variation dans le mode opposé, c'est-à-dire là, il y a une variation mineure précédemment, et une variation lente qui se rapprocherait plus d'un grand aria, et un final plus brillant. Et là, on est tout à fait là-dedans, mais c'est vrai que c'est exceptionnel d'inventivité.
Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment, pour moi, dans le cycle des variations, et c'est peut-être pas pour rien qu'on joue souvent ce cycle-là, enfin ces variations-là, plutôt que le Judas Maccabeus ou d'autres. C'est parce que c'est celle qui est le mieux construite dans l'architecture, je dirais, par rapport à ce que disait David juste là, sur les non seulement la durée de chacune des variations, mais aussi le fait d'alterner les variations mineures, les variations un peu plus rapides rythmiquement, et les variations. Enfin, je trouve que les deux dernières qu'on vient d'entendre, vraiment, d'un point de vue de la mélodie, de la tendresse qui est dégagée dans la sixième, et le côté un peu vaillant, conquérant dans la dernière, avec un peu l'appel du corps à la fin. C'est vraiment deux mondes vraiment très distincts et très caractérisés.
David Sodubrel, Gregorio Robino, on l'a dit, tous les deux très impliqués dans l'enseignement. Vous revenez tout juste du Festival et de l'Académie des Arcs dans les Alpes. Je ne sais pas si Beethoven était au programme de vos étudiants, mais comment on interprète Beethoven aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des instruments, des techniques spécifiques pour se rapprocher au mieux des instruments de l'époque de Beethoven?
Beethoven, je dirais que c'est un cas particulier parce que, voilà, il était sourd. Et en fait, parfois, les gens ne savent pas que dès son opus 1, il avait déjà des signes de surdité. Et donc, sa pensée est quand même, au niveau acoustique, est extrêmement intérieure. Et donc, ça s'adapte particulièrement bien, moi, je pense, aux instruments modernes. Après, aujourd'hui, beaucoup de gens jouent aussi sur instruments d'époque et pourquoi pas, c'est très intéressant. Après, pour l'enseigner, on essaie de donner surtout la connaissance du style, donc ce que je disais tout à l'heure, les contrastes, les différences de masse sonore, les registres, etc., etc.
Alors nous allons, pour terminer cette interview, terminer avec, enfin en musique évidemment, mais avant de vous écouter, dans la deuxième sonate pour violoncelle et piano de Beethoven, c'est une sonate donc écrite en deux mouvements, la deuxième, donc 1796. Est-ce que Beethoven a vraiment profité de l'émancipation du rôle du violoncelle pour écrire cette sonate?
Absolument, de toute façon, c'était très nouveau. Il faut savoir que ni Mozart ni Haydn n'ont écrit ce type d'œuvre. Et donc, oui, il profite justement je parle sous le contrôle de Gregorio, mais du développement de l'instrument violoncelle.
Oui, tu parles très bien.
Hein. Gregorio,
les deux premières sonates, donc le plus 5, numéro 1 et 2, sont vraiment pas du tout, le violoncelle n'est pas du tout considéré de la même manière que dans le plus 102, pareil, numéro 1 et 2, enfin, c'est les deux dernières, quatrième et cinquième. Que ce soit aussi dans les variations ou évidemment dans le plus 69.
Donc l'écriture, elle change.
C'est clairement les deux premières sonates, des sonates pour pianoforte avec un accompagnement obligé. Mais entre la première et la deuxième, on voit déjà un rôle du violoncelle qui s'émancipe de toute évidence, de par la technique, de par la tessiture utilisée, qui va beaucoup plus en l'aigu, tout simplement techniquement parlant.
Nous allons en écouter un extrait, mais je rappelle d'abord votre actualité. Vous serez en concert dans le cadre du Festival de musique de chambre d'Entrecasteaux dans le Var le 10 août. Vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, je voulais parler de ce festival qui existe depuis longtemps, qui était avant dirigé par Alain Meunier. Aujourd'hui, il a sa tête de femme, Olivia Hugues, directrice artistique, et Juliette Marie, directrice de production. Et c'est un endroit vraiment merveilleux. Enfin, tous les musiciens qui sont allés pourront en témoigner. On joue dans tous les petits villages du Var. Après, on se retrouve tous pour partager des moments vraiment super. Donc si les gens sont dans le coin, qu'ils n'hésitent pas à venir au Festival d'Entrecasteaux.
Le 10 août prochain pour votre concert. Merci à vous deux d'être venus.
Merci Gabriel.
Je vous souhaite un bel été, plein de beaux concerts à venir. Voici donc le début de la sonate numéro 2 qui commence par une magnifique introduction, Adagio Sostenuto. Thank you. Le début de la sonate pour violon, celle et piano numéro 2 de Ludwig van Beethoven en sol mineur, interprété par David Sodubré au piano et Gregorio Robino au violoncelle. Mes invités ce matin qui seront en concert, donc je le rappelle, le 10 août prochain dans le cadre du Festival de musique de chambre d'Entrecasteaux dans le Var. Eh bien, c'était Kullervo, l'opus 7 de Jean Sibelius qu'il fallait deviner ce matin, juste avant 8h05. Vous avez été nombreux d'ailleurs à nous répondre. Bravo aux 5 gagnants du jour. Catherine du Grand Quévilly, Olivier de Strasbourg, Marie-Annick de Marny-les-Compiègne, Charles de Langeron et Rémi de Paris. Vous avez gagné le disque du ténor Jean-Paul Fouché-Court et du quatuor Manfred, intitulé Clair de Lune, avec des œuvres de Berlioz et de Fauré, paru chez Parati. Un disque France Musique, bien sûr, et qui sera heureux de se retrouver dans votre boîte aux lettres. Je vous dis à demain matin 7h. À 8h30, je recevrai le pianiste Jean-Marc Louis-Adab. J'ai déjà hâte de l'avoir à mes côtés. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée. Je remercie toute l'équipe. Antoine Baglin, Max Dosolme, Gilles Blanchard à la réalisation et à la technique. Avec nous ce matin, José Bernays et Antoine Giraud. Vous êtes là, Frédéric Jourda.
Eh oui, bonjour Gabriel. On était vraiment bien au Brésil avec vous tout à l'heure. C'était qui déjà ce chanteur? Ah oui, j'ai adoré.
Marcio Farraco.
Marcio Farraco, je vais aller le réécouter.
Je vous donnerai quelques pistes à écouter. Très belle été classique du matin.
Très bonne journée à vous, Gabriel.
À demain. Merci, à demain.
À réécouter sur francemusique.fr.